Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec David Ourègue, réalisateur de la série Germinal. Adapter l'histoire à l'écran, c'est toujours un défi passionnant. Mais quand celle-ci se mélange avec un des piliers de la littérature et une des luttes sociales les plus emblématiques du pays, ça met un peu la pression. Avec David, nous évoquerons son travail et son approche de l'histoire. Costumes, mise en scène, réalité historique, entretien avec les familles de mineurs, l'occasion de se poser quelques questions fondamentales. Par exemple, comment est-ce qu'on filme l'histoire? Jusqu'où peut-on prendre des libertés avec l'œuvre littéraire originelle? Est-ce que l'on peut encore transcender Germinal après le film de Claude Berry? C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Bonsoir David, comment ça va?
Bonsoir, bah écoute, très bien.
Je suis ravi de te recevoir ce soir pour parler de ton boulot de réal et de ton boulot autour de Germinal, hein, plus particulièrement, qui est la nouvelle série disponible sur Salto.
Précisément, avant une sortie France Télé à l'automne.
Ouais, donc je précise hein, que c'est dispo sur Salto, puisqu'on est en partenariat avec eux pour la sortie de Germinal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et les autres réseaux, vous l'avez déjà vu, on a fait quelques petits trucs dessus. Et donc voilà, on vous prépare tout un tas de trucs sur Germinal parce que la série est cool et que le contexte historique est vraiment hyper intéressant. Alors, mon cher David, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel avant de rentrer dans le vif du sujet de Germinal? Qu'est-ce qui t'a amené à la Réal et comment t'en es arrivé à finalement jusqu'à Germinal?
Écoute, mon parcours, c'est celui d'un provincial qui rêve de cinéma depuis son plus jeune âge, qui a longtemps cru que c'était mission impossible à un moment donné de pouvoir vivre de sa passion. Je suis un autodidacte, j'ai fait quelques formations ici et là, en général payées avec mon argent de mes boulots d'été. Et j'ai très vite commencé à produire des courts-métrages dans un format un peu associatif, produire des courts. Je réalisais la plupart, ça commençait à plutôt bien se passer. Je suis parti sur Paris pour en quête de fortune et de gloire. Échec cuisant pendant une année où j'enchaîne les rendez-vous et où manifestement je ne suis pas convaincant. Je tombe pendant 2 ans dans la finance parisienne qui me donne une idée assez précise de tout ce que je préfère fuir dans la vie. Mais ça a un avantage, celui de me rendre plus sensible aux questions financières. Assez rapidement, ayant toujours un enthousiasme prononcé débordant pour la mise en scène et pour le milieu du cinéma, on me conseille vivement de devenir premier assistant réal. Étant assez permissif, je deviens premier assistant réalisateur. Donc c'est toute la logistique, tout l'approche, je dirais, du planning, comprendre la vision d'un réalisateur et la traduire en chiffres. En jour de tournage.
Il faut préciser quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de visuel, que souvent, premier assistant, on dit que c'est vraiment le pire job, parce que tu fais vraiment le tampon, plus entre un peu l'équipe, le réal. Enfin, c'est un truc, il faut s'accrocher, quoi.
C'est vrai, mais j'avoue que ce n'est pas du tout mon expérience. En tout cas, j'en ai eu, puisque j'étais tellement heureux, après tant d'années, à tenter de me faire une petite place sur un plateau, d'être là à une place stratégique sur un plateau, me permettait de comprendre d'autant plus les rouages, la pénibilité du métier de chacun, et donc d'imaginer, si un jour cela devait arriver, de quelle manière je m'y prendrais si j'occupais la place. Et je dirais que la vie a fait son chemin. Je suis parti, j'ai fait un premier court-métrage qui a été remarqué dans des festivals de films de genre, notamment, premier court-métrage produit. J'ai produit une quarantaine de courts-métrages avec... autant dire, c'est l'école de la démerde. On apprend à faire beaucoup avec pas grand-chose, ou rien. Et tant et si bien, ça m'a amené à partir réaliser dans les îles tropicales des séries de flux, où on te demande de rentrer 33 pages de texte en une journée. avec des comédiens qui sont des machines. Ça a un avantage, celui de t'apprendre à faire très vite et à rendre un résultat acceptable. On a beaucoup travaillé à travailler à ce que le résultat acceptable devienne qualitativement supérieur. Et ça m'a amené gentiment, mais sûrement, avec la même boîte de prod sur un programme jeunesse qui s'appelait SCAM, adaptation d'un format norvégien. Et ça a été, je dirais, un peu l'immense démarrage, puisque le programme a cartonné en France à partir de sa saison 3 et de l'arrivée de la productrice, notamment de Germinal par la suite. Là, c'est épiphanie un peu collective. Et après 4 saisons passées sur SCAM et à vivre des moments assez fous, on est venu me trouver en me disant « Mais qu'est-ce que tu penserais de faire Germinal ?» Et j'avoue que je me suis un peu étouffé à ce moment précis.
C'était quoi ta première réaction ?
Ma première réaction, elle est multiple dans le sens où je terminais la préparation de la saison 5 et 6 de SCAM et je voyais plein d'assistantes de prod lire le texte Germinal et je suis allé les voir en disant « Mais attendez, mais vous avez perdu un pari, c'était le seul livre disponible. Hein. » Donc j'étais un peu goguenard, un peu rigolard parce que pour moi, comme pour ma prod et Julien, l'auteur principal, Germinal, c'était un souvenir d'un moment de collège où on te met un flingue sur la tempe pour faire des fiches de lecture. On t'oblige aussi à aller voir le film de Berry parce qu'il est en train de se prendre une rousse par Jurassic Park à l'époque et qui s'était arrangé brillamment pour que ça fasse partie du programme scolaire. Et j'avoue que dans ma salle de classe du Sud, j'étais assez circonspect par rapport au film qui comportait tout ce que j'aime en général au cinéma, les histoires de soulèvement, les histoires de leaders qui s'élèvent, mais je peinais à me sentir impliqué personnellement. Je constatais les faits, l'enchaînement des faits, mais j'étais pas emporté. Et quand mes producteurs ont affiné leur demande en disant « Mais bon, très bien, t'as pas l'air très chaud pour le faire, donc sans toi libre, discutons pendant 2-3 heures, comment tu l'aborderais ?» Et je disais « Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point les premières minutes, c'est ce qu'on dit à chaque fois sur un projet. Attention, les premières images sont décisives, mais les premières minutes vont être capitales parce que je suis persuadé que si on va dans la rue, pas dans le Nord, j'ai bien compris, hein, mais si on va dans la rue et qu'on prend 10 personnes et qu'on leur demande « Est-ce que vous voulez revoir Germinal ?» on va se prendre une tôle. Donc, ce qui était une approche un peu de VRP, un peu visuel au démarrage, j'ai gardé quand même un souvenir très précis du livre, malgré le fait d'être passé à côté. Je me suis mis à parler très librement de l'histoire, de ces personnages qui avaient tout pour être bouleversants. Et disons qu'à la fin des 2 heures de discussion, je parlais de western crépusculaire, je parlais d'envie de filmer le Nord comme on l'avait rarement vu, je commençais quand même à être bien titillé par cette discussion. Et avant de prendre une décision définitive, parce qu'ils avaient quand même mis la graine, ils étaient forts, mes prods, Alban Etienne et Carole de la Vallée, j'ai demandé bien sûr à relire le livre, ce qui a été quand même un choc, comme quoi il y a des âges préconisés pour lire de tels monuments, de par sa puissance, de par sa puissance émotionnelle bien sûr, mais aussi sa résonance avec l'actualité. Je préfère ça que de parler de modernité, qui est un terme que je trouve très, très galvaudé. Et de partir dans le Nord. De partir dans le Nord, rencontrer d'anciens mineurs, visiter des musées, voir ce qui restait des paysages du bassin minier. Et là, ça a été, je dirais, un choc fondateur.
En tout cas, adapter Germinal, c'est une sorte de double défi, en fait, parce que tu as à la fois le respect de l'histoire et le respect d'un roman, d'une œuvre littéraire, d'un monument. Comment est-ce que, toi, tu as abordé, finalement, ce double challenge, finalement, cette double nécessité d'adapter à la fois un roman et en même temps l'histoire ?
Alors, tout d'abord, je ne manquerai pas de saluer le travail formidable de Julien et ses auteurs, qui a été le premier à scoltiner un petit peu au vertige Julien Littier. Je parle de Julien, c'est mon camarade de classe, c'est pas loin. Mais ses auteurs qui ont été les premiers à se confronter à ce vertige d'adapter Zola. tout en étant conscient, bien sûr, de la résonance actuelle, ça on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que lorsque j'ai été choisi, validé par France Télévisions notamment, je leur ai demandé pourquoi refaire Germinal aujourd'hui. Ça m'intéressait beaucoup parce que le parallèle avec les Gilets jaunes, mon gamin de 6 ans est capable de le faire. Et j'étais assez surpris de voir le service public à l'heure actuelle avoir le courage ou l'inconscience de relancer cette histoire, conscient que si on faisait Germinal correctement, ça allait gratter quand même sévèrement par rapport à une chaîne de service public, par rapport à la teneur du message, par rapport à la puissance du message, par rapport aux questions que ça soulève. Et c'est vrai que la lecture des scripts des auteurs a répondu à de nombreuses de mes questions. Déjà apparaissaient certains mots comme la mondialisation. On retrouvait tout ce qui faisait l'essence même du roman de Zola, sa capacité à parler de collectivisme avec Étienne Lantier, d'anarchisme avec Souvarine, du positivisme avec le personnage de Rassner qui est sûr que le débat peut servir à calmer toute chose, ou alors le socialisme chrétien, Dieu aidera quoi qu'il arrive les pauvres. Tout était très présent dans le scénario, donc pour moi ça avait une résonance qui était assez forte, sans compter le fait que Zola publiait, faut le savoir, Germinal de façon hebdomadaire, c'était un feuilleton. Donc, il était obligé aussi, parfois, de faire des cliffhangers un peu étonnants à la lecture, je dirais, d'une traite du roman. Par exemple, dans le roman, Étienne descend une journée et demie dans la vie, il ressort et il lance la grève. Là, on peut dire, il est quand même, attends, on lui offre un job, c'est quand même un peu fort de café. Mais Zola aussi répondait, je dirais, au rythme de publication, aux contraintes d'un rythme de publication. Délester un petit peu de tout ça, c'est vrai que les auteurs ont pu approfondir certains personnages, ont pu parfois creuser des trous narratifs et surtout aller, je dirais, mettre plus en exergue le souffle de la fresque, le souffle de la romance, le souffle des émotionnels entre les personnages, tout comme, je dirais, développer certains sentiments forts, j'en parlerai tout à l'heure, mais auxquels les mineurs, les derniers mineurs accordent une immense importance, la dignité des mineurs, le rôle des femmes aussi, le rôle politique, le rôle central et la dangerosité extrême du roman. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le Nord, ça a été à un moment donné, j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre une fosse. On m'a regardé un petit peu comme un dingue, toutes les fosses sont fermées, il y a du gaz, c'est dangereux. Mais en grattant un petit peu, on a réussi à me donner un petit aperçu, à moi comme à mon équipe technique, du vide invraisemblable dans lequel tous ces hommes et femmes descendaient chaque jour dans des profondeurs qu'on peut pas imaginer. Enfin, entre 700 mètres et 1 km 2 de profondeur, enfin, c'est complètement surréaliste. Donc c'est vrai que pendant que les auteurs s'activaient sur, je dirais, restituer au mieux la force du roman de Zola, avec toutes les subtilités politiques notamment, les bases même du roman et le chemin émotionnel des personnages m'offraient un terreau, j'avoue, qui était colossal. J'avais extrêmement envie, enfin aujourd'hui la Maheude, le Maheu, Enbo sont des personnages qui sont rentrés un petit peu au panthéon des figures cultes de notre patrimoine littéraire, j'avais très envie de les délester de leur coquille un peu archétypale. Délester le fait que la Maheude soit juste une mère sacrificielle. Alors, une mère sacrificielle, c'est déjà beaucoup, mais je voulais la montrer très forte. Tout comme sa fille Catherine, qui nous a posé pas mal de problèmes au moment d'aborder le rôle des femmes dans Germinal. En gros, ce qui s'est passé, c'est j'ai fait un travail, je dirais, complémentaire sur le terrain avec mes équipes de déco et mes équipes images, en allant chercher aussi la vérité derrière ce que Zola décrit dans son roman. Zola, c'est un génie, tout le monde s'accorde pour le dire, même ceux qui le critiquent, mais c'est un génie aussi politisé. Et il n'a pas été long de voir, dans mes recherches à travers les musées, dans mes recherches aussi, dans mes discussions avec les mineurs, sur quel élément de l'univers, il a appuyé pour appuyer son propos. Par exemple, il décrit des corons dans un état de décrépitude complètement avancé. On se rend compte, en allant dans un musée, qu'à l'époque, la salubrité des logements était absolument indispensable et incontournable. Une famille qui ne respectait pas le logement se faisait licencier sur le champ. Les murs étaient même peints à la chaux bleue pour booster le moral des troupes. C'est très différent, je dirais, de l'imagerie un peu des années 40-50, 1940-1950, que Berry avait pu restituer. Et c'est vrai que la perspective de pouvoir restituer un paternalisme avec une imagerie moins accablée immédiatement, puisque qui dit Germinal dit on va se connecter à des personnes qui sont beaucoup plus miséreuses que nous et qui connaissent un état de misère que on ne connaîtra certainement jamais. Et en montrer une image plus sournoise, plus clinquante au démarrage, en épisode 1, et montrer qu'un paternalisme plus sournois avec cet univers va vriller au moment d'un accident quasi mortel dans l'épisode 2, ça, c'était une piste qui me semblait extrêmement intéressante. Donc, je dirais que aborder Zola et Germinal aujourd'hui, ça a été confronté, cette histoire qui est un roman, même si elle s'inspire de quatre grèves dont Zola a le récit et les échos, confronter le récit de Zola à la réalité nous a déjà aussi permis de nous émanciper de certaines imageries avant qu'on se heurte aussi à certaines contingences obligatoires, je dirais, l'état des décors actuels dans le bassin minier.
Parce que tu voulais vraiment filmer dans le jus, toi.
Oui, sauf que j'ai vite compris aussi ce que Berry avait fait. C'est que Berry, quand il arrive, il veut vraiment situer l'histoire au moment où Zola a décrit. Zola écrit en 1885 des éléments qui situent en 1865, donc où le bois est omniprésent. Et Berry trouve la solution parfaite pour son époque. Il installe son décor chevalement en bois et tout le décorum au milieu d'une plaine pour s'habituer de toute forme d'anachronisme fâcheux. Berry dispose d'un budget de plus de 100 millions pour 6 mois de tournage, pour 2 heures de film. Et même si notre budget était confortable, 12 millions pour 6 épisodes, ça restait quand même de l'époque, et on devait filmer presque 6 heures de film. 6 heures de film. Donc, on avait quand même des problématiques qui n'étaient pas les mêmes. Et surtout, quand j'arrive et que je découvre les chevalements, ce sont tous des chevalements en acier trempé, surplombant des décors. Des bâtiments quasi victoriens. On était plus proche d'H.G. Wells dans ce que je découvre, avec la Guerre des Mondes, que dans l'imagerie, je dirais, d'Épinal, du Germinal, de Zola, des illustrations qui ont accompagné le roman. Donc ça a été à la fois un choc, et à la fois une indication aussi assez précise sur vers quel univers visuel j'allais proposer pour qu'on n'ait pas l'impression de remâcher encore et encore le même univers des Germinal déjà vu.
Justement, pour se concentrer peut-être d'abord sur le format, est-ce qu'il y a une certaine forme d'écho au fait que Zola publiait de façon hebdomadaire, justement, avec cette diffusion en série, justement, en épisode? Est-ce que toi, tu l'as travaillé un petit peu de la...
J'ai travaillé... alors déjà, les auteurs, entre guillemets, ont fait un remarquable travail par soirée. C'est-à-dire que je dirais que le deuxième épisode répond parfaitement au lancement du premier, et ainsi de suite. Il va y avoir 3 soirées de diffusion principale avec 2 épisodes.
Parce qu'on rappelle que c'est diffusé sur France 2 et que c'est diffusé avant ça sur Salto en intégralité, donc il n'y a pas besoin d'attendre quand on est sur Salto.
Il fait un travail super autour de la série.
Donc Salto, ça regroupe plein de séries françaises internationales. Hein, dessus, c'est un peu un Netflix, mais en mode français. Voilà. C'est plutôt cool parce que, en vrai, c'est ce que je disais en discutant avec Salto quand on a préparé un petit peu ce grand partenariat qu'on est en train de faire. Ces dernières années, je trouve qu'il y a un nouveau souffle des séries françaises, où il y a encore 3-4 ans, quand tu parlais de séries françaises, les gens les comptaient sur un peu sur le doigt d'une main, et puis le reste du temps, ils disaient « bon, série française, c'est bon, quoi, c'est un peu nul. » Enfin, sentait qu'il n'y avait pas un réel engouement, quoi, autour de la série française, alors que maintenant, ça redémarre, quoi.
Et je me réjouis, en tout cas, de lire et de recevoir beaucoup de messages de gens qui découvrent la série en intégralité, qui me disent « quand tu commences, c'est très compliqué de s'arrêter ». Parce que c'est vrai que l'intensité, entre guillemets, qu'on s'est appliqué à y mettre, rend le binge suffocant, mais je pense intéressant. Mais c'est vrai que la formule de base, c'est une construction en 2 soirées, avec un cliffhanger à la fin du deuxième épisode qui est en gros l'annonce de ce qu'on est tous venus chercher avec Germinal. c'est-à-dire la grève. Ce lancement de la grève, sauf qu'on l'a, on l'a jamais vu comme ça, entre guillemets, et à travers les personnages qui la prononcent. Là où le troisième et quatrième, je dirais, c'est l'avènement d'un prophète. L'avènement d'un prophète avec Étienne qui s'élève au-dessus des foules et qui, je dirais, utilise ce pouvoir dont il ignorait même la portée, celui de capter les foules et de l'emmener vers le collectivisme cher à Zola, hérité de Karl Marx. Enfin bref, je laisse les gens se renseigner là-dessus, mais en tout cas, c'est très, très présent. Et la chute du prophète. Moi, c'est vrai que la figure du leader charismatique me fascine depuis toujours. Si je pouvais faire un film sur le Christ et aborder l'aspect politique de ce personnage-là, je crois que Verhoeven est sur le coup. Mais en tout cas, ce serait un peu une fascination. Et c'est vrai que dans l'imagerie décrite tout au long de cet épisode-là, c'était fascinant de le voir quasiment mourir et s'élever et chuter dès l'épisode suivant. Je dirais que ça, c'était peut-être la résonance la plus forte avec les Gilets jaunes. Mouvement que tout le monde trouvait excessivement sympathique quand il est arrivé. Je me rappelle de plateau, on disait écoutez, on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer. Et deux semaines plus tard, on disait mais ils n'ont pas de leader, c'est confus, c'est le bordel. Et c'était extrêmement frappant de voir que Zola décrivait les mêmes mécaniques pour abîmer tout mouvement spontané populaire. Là où le cinquième et sixième, la troisième soirée, et là je rends hommage à mes producteurs, devaient répondre, je dirais, à la promesse de Germinal. Germinal, tout le monde sait que ça ne se termine pas très bien, mais tout le monde sait aussi que ça se termine, je dirais, dans des proportions spectaculaires. Et là, il ne fallait pas se louper et assumer ce qui est peu ou prou notre Titanic à nous. Donc les auteurs ont fait ce travail-là, et nous, sur la gestion du rythme et des cliffs, on s'est appliqué à le suivre.
Oui, alors pour rappeler quand même, parce que c'est vrai qu'on est nombreux à avoir étudié Germinal jadis ou autre, mais pour remettre un petit peu dans le contexte quand même, hein, on a donc un patron d'une mine qui met sous pression ses employés, qui essaye de tirer tous les coups vers le bas pour faire un maximum de profit et qui pressurise tellement ses mineurs que via une sorte de messie, hein, comme on le voit, Lantier qui arrive, qui veut essayer de fédérer les mineurs pour lutter contre cette injustice là et contre le patron, va faire naître un véritable conflit, hein, entre les mineurs et la direction. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu déjà sur filmer l'histoire. Donc, on va revenir un peu sur comment toi, tu as pu recréer des galeries en studio, comment est-ce que tu as évité les corons, on va parler des costumes, etc. Ensuite, on parlera un petit peu de l'œuvre de l'adaptation en tant que telle, comment est-ce que, au fond, par exemple, tu as travaillé les personnages féminins, etc. Et puis, on reviendra sur un petit peu le passé minier qui est omniprésent dans le film avec les figurants, avec plein de gens au fur et à mesure de cette émission. Mais une question que je voulais te poser, parce que c'est vrai que quand j'ai regardé la série, et je crois que tu l'assumes aussi, alors c'est très beau et ça m'a rappelé un petit peu Peaky Blinders. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi on pense à cette série et est-ce que toi, tu la revendiques comme une inspiration
Alors, pour être tout à fait honnête par rapport à cette référence, je ne la revendique pas spécialement. Alors, c'est très marrant parce que très souvent sur mes programmes, on va citer une référence ou je dirais un écho sur Scam, combien de fois on m'a parlé d'un film, par exemple, pour certains moments. Et c'est vrai que Peaky Blinders, faire Germinal façon Peaky Blinders, ça a été une formule de production de mes producteurs bien-aimés, très efficace, parce que ça donnait, je dirais, tout de suite une idée assez précise de ce que ça allait donner. Mais je serais tenté de dire que autant Julien que moi, notre obsession était de déjà donner à Germinal une nature propre. Alors oui, c'est beaucoup plus rythmé qu'une fresque historique lambda. Et attention, hein, j'adore Peaky Blinders, donc ça serait plutôt supposé me plaire que de les comparer. Mais j'ai plus passé de temps à dire mes prods, mais arrêtez un peu cette formule parce que c'est quand même une grosse vue d'esprit, quoi.
Et je t'en mets une couche en plus.
non, mais c'est drôle, mais tant mieux. Je pense qu'il y a aussi le fait que Peaky Blinders, surtout dans ses dernières saisons, ressort le scope anamorphique, revient, je dirais, à une esthétique certes léchée, mais qui rappelle les grandes fresques et les grands spectacles qu'on a pu bouffer, que ce soit Léon, que ce soit d'autres prestigieux réalisateurs. Et j'avoue qu'on a fait un travail de déconstruction avec Xavier Doléon et Isabelle Quillard, mon chef opérateur et ma chef d'écho, pour dire, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans Germinal et de quoi on crève, qu'est-ce qu'on a envie de voir à l'écran. Et moi, c'est vrai que je rêvais, particulièrement avec Xavier, qui est mon chef-op, donc qui aime les zones d'ombre, je rêvais de rendre justice à ce que les mineurs vivaient réellement dans les profondeurs. Il faut savoir qu'une lampe, et j'ai des images hilarantes de Xavier dans son appartement parisien, manquait de cramer son immeuble pour faire des tests lumière, avec les vraies lampes, avec les vrais liquides, vous voyez, les vraies essences. Les lampes éclairaient à 1 mètre, 1 mètre 20 maximum. Là où toutes les adaptations de Germinal jusqu'alors vous montraient des mines suréclairées. Alors, au départ, on regarde ça, c'est assez marrant, parce qu'on regarde ça, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, enfin, il y a tellement des tableaux fascinants à aller chercher sur ces visages, ces yeux clairs du Nord, imaginant avec ces lampes, il faut impérativement restituer ça. C'était, je dirais, l'image qui nous a le plus guidé. Après, techniquement, on a compris les problèmes de nos prédécesseurs. Aller éclairer les visages de mineurs qui ont déjà une galette par ici, juste une petite lampe, enfin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, je dirais que si on est fier de montrer les mines les plus denses jamais montré dans une adaptation de Germinal, même si ce n'était pas un concours, on fait quelques entorses à la réalité. Par exemple, vous verrez ici et là des lampes accrochées sur les parois. La lampe de vie des mineurs, ça ne s'accrochait pas quelque part. Ça se gardait précieusement parce que si vous comptiez remonter un jour, il valait mieux l'avoir avec vous. Ça c'était l'image la plus forte. Ensuite, sur le fait de restituer l'atmosphère, c'est la combinaison entre des envies de retrouver l'esthétique du western dont je parlais précédemment, parce que pour moi, il y avait beaucoup de western dans l'histoire de Germinal. Le lieu clos, enclavé, le propriétaire qui tient la vallée et arrivé de ce jeune inconnu qui sait à peine se battre, qui soudain déclenche la révolte. Enfin, ce sont des schémas qu'on a vus de John Ford au dernier film de Costner, Open Range par exemple, ou sa série Yellowstone. Enfin, c'est des choses moi que j'aime profondément. Le fait de revenir aussi à l'anamorphique et le fait de le faire accepter par France Télé.
Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent quand même ou nous regardent ce que c'est?
Alors l'anamorphique, donc c'est une image anamorphosée, donc c'est du 2.39 avec les grosses barres noires en haut et en bas. C'est un cadre qui privilégie, je dirais, l'horizontalité des décors, la composition sur l'horizontale, plutôt que le plein écran qui vous permet un petit peu de faire tout et son contraire. Le plein écran aujourd'hui est très populaire auprès des diffuseurs parce que ils ont envie de choper toute la moins de centimètres exploités pour capter votre attention. Mais c'est vrai que sur Germinal, on avait tellement envie de se rapprocher au plus près de ces regards, de retrouver l'esthétique des spectacles d'antan, tout en alliant ça à des techniques plus modernes de filmage. Pour nous, il n'y avait pas de débat, et on a eu de la grande chance d'avoir des prods qui nous ont appuyés, un diffuseur qui a accepté notre cible là-dessus. Mais on sait qu'en général, les gens n'aiment pas trop ça maintenant, parce qu'il y a toute la com sur les réseaux sociaux, et le format anamorphique, c'est chiant quand on veut faire des formats carrés Instagram. Je vous jure que parfois, ça joue là-dessus. Hein. C'est des discussions qu'on peut avoir. Mais on se disait qu'on avait très envie aussi de reproposer quelque chose de différent. Et c'est drôle de se dire qu'aujourd'hui, l'anamorphique, c'est quelque chose de différent sur nos écrans, alors que c'était un format extrêmement populaire auparavant.
Alors, on va peut-être aborder cette façon que tu as eue de filmer l'histoire. Mais avant, une question ultra pragmatique peut-être, plutôt une question qui est liée avec l'actualité, pas forcément avec la série. Comment le Covid a impacté le tournage éventuellement?
Je dirais qu'il a impacté au long cours. D'abord, imaginez quand on nous propose la série, à la base, le canevas, c'était, bon, vous avez 3 mois, on est en janvier 2020, on commence à préparer en mars, on tourne en juin pour profiter des beaux jours, parce qu'on ne va pas non plus tourner Germinal dans le Nord avec le froid polaire. Et voilà, et donc 3 mois de préparation. Et là, je suis en conspiration devant toute l'équipe, devant ma productrice, à qui je ne cache rien, en disant, mais ça n'a aucun sens. 3 mois, enfin, rendez-vous compte, pour préparer 6 épisodes de cette envergure, Je dis, je comprends les soucis de chacun, mais l'univers va agir pour que ça n'arrive pas. Et je dis ça en pleine réunion. Quand soudain, on parle une semaine plus tard d'un virus chinois, toute l'équipe me regarde en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Quand le pays s'arrête et le monde avec, je partage l'angoisse de tout le monde, évidemment, mais j'y vois aussi une possibilité de penser un peu plus mon travail qui s'avérait complètement colossal, puisqu'en plus, nous étions arrêtés à y nous manquer les deux tiers des décors. Donc, c'était vraiment une vue de l'esprit. Et quand vous avez des problèmes de... Il y a aussi la question de la légitimité à la Tesola. Hein, vous voyez, donc, j'ai eu donc deux bons mois chez moi à me poser mille questions. Quand je reviens du Covid à la réunion de la rentrée, pour savoir ce qui va devenir de ce projet complètement fou, je suis persuadé que la prod va l'annuler. Enfin, la prod m'accueille disant « Mais David, il n'y a aucun risque, il n'y aura jamais de deuxième confinement. S'il y a un deuxième confinement, c'est la fin économique du pays. » Donc là, moi, j'avais un autre projet au téléphone avec Netflix de l'autre côté. J'étais persuadé, j'ai même dit à l'équipe, ne vous inquiétez pas, si ça s'annule, on devrait pouvoir s'en sortir. Et là, je fais face à des prods complètement fous, où je salue la folie, hein, en disant, non, allez, c'est bon, on y va, on y retourne. Préparation, finalement, on arrive en octobre, on se rend compte que les agents des comédiens ont dit oui à tous les projets du monde, des fois que... Et que au moment de faire un pari, ils se sont dit, on va dire oui à tout, j'exagère, mais pas loin, et puis dans le pire des cas, il y aura bien un projet qui va s'annuler, qui va nous libérer de la place. Quel était le candidat le plus certain à l'annulation? C'était nous. Quand on les a appelés pour dire, on repart. Silence au téléphone. On dit, oh putain. Donc on a fait, et je rends hommage à mon premier assistant qui a fait un plan de travail qui n'avait aucun sens, basé sur les disponibilités des uns, des autres. Enfin, c'est déjà le cas d'habitude, mais alors là, j'avoue que c'était le pompon. Et nous voici partis avec une question qui m'est posée à la rentrée par mes prods. Est-ce que tu te sens de tourner Germinal en respectant les contraintes sanitaires? Et là, je les regarde en disant, mais si c'est le cas, ce sera sans moi. Je pense que la dernière des choses dont le public a besoin, c'est de voir un Germinal avec des gens qui se parlent à 3 mètres, qui ne se touchent pas. Surtout pas maintenant. Et à partir de là, idée de génie de la prod, qui a été notamment par rapport à la question des figurants, car sur le plan de travail, nous allions en avoir, et nous en avons eu, 2400 sur les 4 mois de tournage, ça a été de réduire considérablement les figurants individuels. En gros, si on avait besoin de 2400 figurants, il fallait qu'on ait un bassin de 300 figurants, qui ferait plein de jours de tournage, qui serait donc nettement plus impliqué et donc nettement plus tenu, soumis aux contraintes sanitaires. Rajouter à ça que c'était des personnes formidables, ça, c'était un beau côté. Par contre, ce qui devait arriver arriva. On a tenu quoi, 5 ou 6 semaines, moralement très compliqué, notamment pour l'équipe, parce que vous tournez des choses qui sont très très dures et le soir, vous êtes dans l'hôtel avec un plateau repas, enfin une barquette réchauffée. Repas, personne ne se voit sourire pour les raisons que tout le monde connaît. Et chaque jour, on se demande quel enfant meurt dans Germinal. La distance morale a été compliquée. Mais ce qui devait arriver, arriva. On tourne une séquence fameuse de l'épisode 5, dont je suis très content. Et je dirais strike. Strike, alors là, c'est... tout le monde tombe. Je passe la journée à dire à tout le monde, vous n'avez pas un peu froid? Tout le monde dit, non, pas du tout. Alors, bizarre, on tourne sur cette dernière journée, le début de la séquence de l'église de l'épisode 4. Je, entre chaque prise, je vais m'endormir dans la sacristie, entre chaque. Le soir, je me rappelle un appel de Guillaume de Tonquédec qui me dit: David, tu nous as dirigé parfaitement aujourd'hui. Sauf que je ne captais absolument plus rien.
Ah bon, ouais, ça, très bien.
C'est super, donc, comme quoi. Et me voilà. Voilà, donc arrêt Covid, avec plusieurs comédiens touchés, des techniciens, mon chef opérateur, à des degrés de gravité plus ou moins importants. 2 semaines d'arrêt, sur un projet comme Germinal, c'était pas évident, mais je dirais que dans notre malheur, on a réussi à se remobiliser de façon un peu différente et que la deuxième partie de tournage a été assez, assez incroyable. Entendre qu'on a repris en janvier par le carreau de la mine, et alors là, on était increvables. Envoyez-nous le froid, la fumée. Allons-y, il fallait qu'on le termine.
Effectivement, c'est un vrai strike. C'est vrai qu'un souci important quand même quand on fait ce genre de série, c'est effectivement de dégager une atmosphère et un rendu le plus fidèle possible, ce qui toi te tenait à cœur, et donc de tourner dans des sites en dur. Vous avez tourné aussi dans des vraies mines ?
Il faut savoir que toutes les mines, toutes les fosses sont aujourd'hui, tu ne peux pas tu ne peux pas y aller. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, elles sont toutes bouchées. Par contre, nous avons eu la chance de tourner donc sur les sites de Wallers-Arenberg et de Leeward, qui sont des alors Wallers-Arenberg est devenu aujourd'hui Creative Mine, c'est-à-dire un site un petit peu multifacette, dédié à la création audiovisuelle notamment, mais pas que. Là où Leeward est un véritable musée absolument passionnant d'ailleurs. Donc si on avait accès, je dirais, au chevalement, parfois aux cabines d'ascenseur, parfois à bien des choses, la descente fantasmée, ça bon, c'était absolument interdit. Donc on a dû faire appel à une championne, je dirais Isabelle Quillard, avec qui on a dévoilé le détail de nos besoins, je dirais, de façon très progressive. Parce que si on l'avait tout dit dès le départ, enfin, c'était un cauchemar, elle serait partie. Autant vous dire que sur la fameuse séquence où Étienne va descendre pour la première fois dans la mine, il n'y a pas moins de 6 techniques différentes. Donc on arrive sur le vrai site du bassin minier, on rentre dans le vestige d'une ancienne cage d'ascenseur, on bascule en studio où tout a été reconstitué pour amorcer la descente, puis on bascule en 3D sur la descente avant d'arriver dans un autre décor intégralement en dur, où tous les mineurs vont et viennent, décor qui sera immergé, bien sûr, dans le 6e épisode. Autant vous dire que c'était cauchemardesque et que Isabelle et ses équipes ont fait un travail surréaliste.
Mais d'ailleurs, les galeries donc, ont été recréées en studio. Il fallait quand même que les acteurs puissent taper dedans, non, pour piocher et que ça soit, qu'ils soient un peu dans le rôle.
C'était mon obsession parce que, en gros, pour revenir aussi au pourquoi du comment, la tentation était grande de faire Germinal avec un emploi massif au VFX, donc aux effets spéciaux 3D. Et c'est tout ce que ce dont je ne voulais pas. En fait, c'est quelque chose, j'aime bien les effets spéciaux, mais en tout cas, sur une histoire comme ça, il faut que ce soit toujours employé au bon endroit, au bon moment. Et lorsqu'on parle de plonger vos comédiens dans des mines et galeries d'époque, il est inconcevable, en tout cas, il l'était pour moi. De ne pas les plonger dans un décorum en dur. Et c'est vrai que mon obsession était de voir frapper véritablement le charbon et qu'il n'ait pas à féquer sur des polices sirènes. Ça m'aurait complètement déprimé et je pense qu'eux aussi, en tout cas, ce n'était pas l'engagement que j'avais pris par rapport à eux. Ce qui est plus amusant, c'est qu'on se fait livrer des tonnes de charbon donc authentique et on vient me chercher à mon nez, tandis que j'étais en préparation, en disant on a un gros problème. Faut que tu viennes voir, tiens, prends la pioche, tape dans le charbon, et ça projetait une quantité d'éclat, mais colossal et dangereux. Et donc là, vous avez tous les petits bobos, je dirais très loin, tous les artistes, entre guillemets, qui avaient une vision jusque-là uniquement graphique, qui là se heurtent à la matière et à ses dangers. Et c'est là qu'on comprend davantage que la plupart des mineurs ont du charbon incrusté sous la peau, ce qu'on appelle les fameux tatouages de charbon, et qu'on comprend qu'il faut le frapper très fort, de façon très précise, pour minimiser les éclats. Donc ça a été ça aussi, je dirais, la confrontation d'une imagerie à la réalité. Et c'est pour ça aussi que quand vous voyez la Maheude qui, dans l'épisode 1, lave son mari, ou Bonnemort quand il s'est ausculté, vous verrez ces traces de charbon qu'on a pu expérimenter pour certains d'entre nous en vrai.
D'où l'utilité hein, de l'histoire vivante. Hein, voilà, c'est quand on fait de l'histoire vivante et puis qu'on reconstitue et qu'on teste, qu'on fait par exemple des marches expérimentales ou ce genre de choses, on se rend compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Et des fois, on est relativement surpris. C'est rigolo que ça puisse arriver aussi au cinéma. Quoi, voilà,
c'est... Non, mais on se dit, c'est toujours ça. Moi, je suis toujours fasciné quand on voit, quand on voit, vous savez, 15 camions dans la rue, des techniciens, des régisseurs avec leurs talkie-walkie, on se dit, mais c'est quoi? C'est le nouveau James Bond, quoi. Et qu'on arrive et qu'on voit juste deux caméras dans un café avec deux personnes qui discutent. Il y a un schisme de moyens ou de... Et d'imaginer toute l'équipe de Germinal, toutes ses bonnes volontés se heurter sur une problématique, c'est le fait que quand tu tapes du charbon, il y a des éclats. C'était assez, assez magique. Mais sur l'instant, on n'a pas rigolé.
Tu m'étonnes. Donc, tout à l'heure, tu nous as déjà parlé un petit peu des habitations, des fameux corons, des habitations de mineurs. Comment, du coup, concrètement, tu t'es débrouillé avec les équipes pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment et,
Écoute, un gros travail de documentation. C'est marrant parce qu'on dirait que dans la région Nord, les personnes en charge des musées sont fait une spécialité de décrypter Zola et de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Alors parfois, on se heurte aux ayatollahs, je dirais, de la réalité historique qui nous explique que les saisons doivent respecter la pousse de la betterave. Enfin, là, on a dit très vite, ça va être compliqué. C'est pas le même film qu'on essaie de faire. Par contre, on trouvait ça très intéressant de réfléchir à ce que Zola avait voulu décrire et de se demander s'il n'y avait pas une façon plus intéressante aujourd'hui, avec notre contexte, avec notre regard actuel, pour le raconter d'une manière plus permissive. Et c'est vrai que finalement, il y a eu un travail de recolorisation, il y a eu un travail de documentation absolument incroyable de mes équipes déco et mon équipe image, à commencer par Xavier, et aussi un travail sur les volumes aussi des lieux, parce que l'anamorphique a tendance à... Enfin, il faut beaucoup de recul pour filmer en anamorphique, donc en anamorphose. Il fallait qu'on ait l'impression que les lieux étaient plutôt réduits, tout en ayant la place pour pouvoir y tourner. Donc je dirais essentiellement une énorme documentation pour venir restituer au mieux, je dirais, l'esprit des corons et des différents décorums, sans compter toutes les libertés que je souhaitais prendre de base avec l'imagerie. Je parlais tout à l'heure de ces chevalements en acier au-dessus du bâtiment victorien. Forcément, on est très loin de l'imagerie proche de 1865 décrite par Zola. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être moyen d'intensifier encore ces subtiles différences qui prêteront à question, mais qui rendront l'univers visuellement saisissant. Je pense notamment à l'électricité, la présence d'électricité sur ces usines avec lesquelles on triche subtilement, mais pas totalement. Puisqu'on éclaire l'extérieur, on sait que Edison arrive en 1879 ou 81, je crois, à créer la première ampoule, et que déjà 10 ans plus tard, certaines usines sont éclairées, et on est parti du principe que la surface du Voreux notamment avait accès à l'électricité, là où les profondeurs, bien sûr, ne le permettaient pas.
Du point de vue des costumes, est-ce qu'ils sont plutôt fidèles à l'époque ou est-ce qu'ils vont répondre à d'autres impératifs? Quand on préparait cette émission, tu m'as dit qu'il y avait, des petites inspirations anglo-saxonnes aussi, mais qui d'ailleurs se voyaient aussi sur d'autres choses que les costumes.
Tout à fait. Alors, il faut savoir déjà une chose, c'est que bon, Thierry Delettre et son département, alors Thierry Delettre, il a fait Edmond, il fait les Trois Mousquetaires là bientôt, où on était extrêmement honorés qu'il nous rejoigne. Et il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire. Entendre sans virer dans le pop ou dans l'adaptation à la base Lorman, on se permet absolument tout. Imaginer aussi quels étaient parfois les vêtements à la mode ou qui venaient de sortir à l'époque. Il y avait bien sûr de la documentation assez précise, mais on s'est rendu compte que le monde d'alors était aussi profondément sous influence du modèle anglo-saxon. Les corons eux-mêmes étaient construits en respectant finalement l'idée des bâtiments ouvriers anglais, avec le petit jardinet, le petit bâtiment à intérieur. Et c'est vrai qu'on a appliqué cette logique aux costumes notamment des bourgeois, en imaginant, en se permettant cette liberté dans les robes, dans les couleurs, dans la tenue un petit peu des costumes deux ou trois pièces, en respectant les textiles de l'époque et surtout en moi, l'intention en tout cas à laquelle je tenais le plus, c'était permettons-nous la couleur, arrêtons de vouloir à tout prix tout désaturer, allons chercher de la couleur. Il y en avait à l'époque, on le sait dès qu'on recolorise aussi les documents d'époque, ils vivaient leur monde avec un ciel bleu, des couleurs, un ciel parfois chargé de charbon. Mais voilà, donc je dirais que tout le travail et l'approche de Thierry a été de respecter l'esprit en se permettant des libertés, en se mettant véritablement à la place des personnages. Par exemple, les Hennebeau sont parisiens. Ils sont parisiens, exilés dans le Grand Nord. On peut imaginer que Paris regardait d'un œil un petit peu admiratif ce qui se passait vers Londres et qu'ils ont ramené les exemplaires de ces fameux costumes dans le Nord où Madame Hennebeau s'ennuie prodigieusement.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
C'est une question aussi qu'on peut se poser, d'ailleurs qu'on se pose assez régulièrement dans Nota Bene sur les différentes émissions, puisqu'on parle souvent de cinéma et de jeux vidéo. Est-ce que c'est grave de ne pas respecter à 100% l'histoire sur la réalisation d'une œuvre, quelle qu'elle soit ?
Zola aurait décrit une grève à laquelle il aurait assisté. Il aurait fait un reportage. On s'est posé ces questions-là. Mais à partir du moment où Germinal est un roman, ça ouvre quand même un champ des possibles. Plus large à partir du moment où on ne trahit pas l'esprit de l'œuvre. Et je parlais de souffle tout à l'heure, tout ce qui m'a permis d'intensifier le souffle de l'adaptation sans pour autant trahir l'esprit, disons qu'on a plongé dedans sans trop de remords ou de scrupules.
Pour préparer la série, tu as rencontré des familles de descendants de mineurs. Tu as pu travailler peut-être aussi avec des consultants historiques, des historiens ou pas, ça je ne sais pas. À quel moment est-ce que cette démarche-là elle a été entreprise et comment toi tu en as tiré les conséquences pour l'adaptation ?
Elle a été entreprise dès le départ, je dirais, parce que quand on vient me chercher pour faire Germinal, vous imaginez bien qu'on me demande « Comment on passe de ce cas à Germinal ?» Entendre « Mais qui es-tu ?» Et ce que j'avais dit à Carole, ma productrice, c'est prépare-toi à ce que je dise je ne sais pas des questions pendant de longues semaines, parce que je ne saurais tout simplement pas et que je n'ai pas envie de mentir par rapport à ça, même si un réalisateur doit toujours envoyer des idées de confiance assez folles. Donc, mais en tout cas, ce que j'étais sûr, c'est que j'avais tout à apprendre et tout à sentir. Et donc, la moindre des choses, c'est de prendre mon cartable et d'aller écouter ceux qui savent et m'en rendre compte à quel point. J'étais obligé de sortir de toute espèce de... Il fallait que je recontextualise sur tous les domaines. D'abord, le rapport des mineurs à la mine, le rapport des mineurs à la foi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en 2021, vous tapez un petit peu l'épaule d'un consultant, vous dites, sérieusement, l'Église, ils y croyaient, nos mineurs. Et là, vous avez quelqu'un très droit qui regarde, qui dit, l'Église était un pilier fondamental de leur vie. Et vous sentez que le gars rigole pas avec ça, que c'est pas non plus un dévot ou une grenouille de bénitier, et c'est quelqu'un qui vous dit non, c'était des gens très simples. D'ailleurs, Zola, dans les multiples critiques qui lui sont faites quand il sort Germinal, on lui dit mais la conscience politique existentielle que vous prêtez aux mineurs, elle est complètement exagérée. Aucun mineur ne l'avait à l'époque. Et Zola dit il est bien emmerdé, il dit mais j'écris toujours comme ça, arrête d'emmerder.
D'ailleurs, on le voit dans la série, parce qu'à un moment donné, t'as l'entier qui fait « Ouais, on va monter une caisse de grève », et puis t'as les gars, ils font « Ouais, parle français, c'est quoi ?»
Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. C'était des gens, malgré le fait qu'il y avait une école à disposition, c'est une école qui vous préparait au maximum pour le travail à la mine. Donc, il faut se rendre compte que le système autour du bassin minier était absolument incroyable. Tant qu'il y avait un mâle dans la famille qui pouvait descendre, dans la mine, vous conservez le logement. Si vous aviez un éboulement et que votre mari ou votre père mourait et que vous étiez une femme au foyer ou une fille à l'époque où les femmes descendaient encore, ne descendaient plus à la mine, vous étiez expulsé dans la semaine. Donc ça a été, je dirais, une reconnexion à une réalité. J'ai fait des rencontres bouleversantes. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait que ses quatre frères étaient morts de silicose. Que lui était atteint également, mais pas à un degré suffisant pour l'emporter. J'ai été époustouflé aussi par, par quelque chose qui revenait tout le temps, c'était « faites honneur, s'il vous plaît, à l'esprit de corps des mineurs ». Et c'est vrai qu'il y a une série, Tchernobyl, où il y a deux séquences avec des mineurs qui, pour moi, m'avaient plus ébahi. Lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à tout ça, les mineurs entendent qu'ils doivent descendre creuser pour le minerai, clairement, on leur raconte du pipeau, et il y a cette phrase qui dit « ces hommes travaillent dans l'ombre, dans les ténèbres toute la journée, ne leur mentez pas, ils sauraient tout de suite ». Et quand ils se mettent tous à poil, et c'est vrai que j'étais obsédé par l'idée de rendre justice aussi à ça, sur cette fraternité, et en ce sens, le dernier plan de l'intro devait répondre à ça. On part sur un accident lambda, je dirais, quelle série ne commence pas par, enfin, à tendance un peu catastrophe, ne commence pas par un accident. Mais le dernier plan devait résumer à lui tout seul le fait que ce qui touche un mineur ou une mineuse touche l'ensemble. Et ça, c'était vraiment une immense nécessité. Et je reviens sur la dignité et la dangerosité. Tous étaient extrêmement soucieux de la manière dont ils seraient dépeints. Donc, ça a été pour moi absolument fondateur dans mon approche. Quand on parlait de dignité, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'aucun mineur ne serait allé boire une chope de bière si sa famille crevait la faim. Et croyez-moi, ils insistaient beaucoup là-dessus. Donc il y a eu, je dirais, des arrangements et des corrections constantes par rapport aux matériaux. Mais j'étais loin d'être au bout de mes surprises, notamment quand j'ai étudié plus spécifiquement la condition des femmes dans les mines. Là, j'avoue que j'ai eu un sacré choc en découvrant pas mal de petites choses qui font partie de l'histoire secrète.
Parle-nous-en, justement, parce que c'est vrai que il y a une mise en avant de pas mal de persos féminins dans la série, qui sont un peu plus nuancés que dans le roman. Et je pense que c'est intéressant aussi de revenir là-dessus.
Alors déjà, encore une fois, le travail, le désir de rehausser le rôle des femmes dans Germinal, je crois que c'est mes producteurs qui sont arrivés avec. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé sur le projet, les femmes prennent une place tellement importante, je m'en réjouis, hein, c'est que même les hommes étaient à des kilomètres derrière. Donc il fallait rééquilibrer, non pas que j'ai un problème avec les femmes qui prennent le pouvoir, c'est l'histoire de la vie et on va vers ça et je m'en réjouis. Mais en tout cas, sur l'histoire de Germinal, il y avait un déséquilibre forcé. Par contre, je ne m'attendais pas à voir à quel point on était dans le vrai. Parce que quand vous vous baladez dans les musées, entre guillemets, vous voyez notamment le manuel du bon savoir-vivre des femmes dans la mine, enfin dans le coron, où les femmes ont tellement de travail, ménager, domestique, qu'on les encourage à ne pas discuter entre elles. Or, le nombre de photos où je voyais les femmes à l'entrée de leur demeure, qui faisaient une espèce de conciliabule, j'en ai trouvé des centaines. Mais au-delà de ça, je me suis interrogé de savoir pourquoi les porions, notamment, donc ces espèces de garde-chiourme des mineurs, étaient à ce point haïs dans le Nord. Et c'est vrai que, assez rapidement, en retrouvant les carnets un petit peu récapitulant les exactions commises dans les mines, j'ai un peu mieux compris aussi pourquoi l'histoire a fini, enfin, la loi a fini rapidement par changer. Imaginez des femmes dans les ténèbres. Avec des hommes travaillant dans une chaleur absolument harassante puisqu'on frôlait souvent les plus de 40 degrés. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour imaginer ce qui pouvait se passer et quels étaient le sort qu'elles subissaient. On s'est tous réjouis quand... je n'étais pas là, en tout cas je m'en réjouis. Quand en 1889 est votée définitivement la fin du travail des mines, dans les mines, au fond des mines, de parler des femmes... Elles ont donc terminé au triage du charbon pour séparer le bon charbon du mauvais. Et en guise de bon souvenir, les hommes faisaient aussi leurs besoins dans les berlines qui leur revenaient pour que parfois elles aient des petites surprises en remontant tout ça. Donc, c'est posé la question à un moment donné de Catherine. Parce que moi, Catherine, dans le roman de Zola, elle a 13 ans. Zola l'a décrit avec des termes il est facile, elle décrit comme une aide de lumière, elle est diaphane, elle est fragile, elle est la chose de Chaval, et si elle ne serait pas le premier personnage à l'écran de la littérature, à être victime de son bourreau jusqu'à le suivre, j'avais la conviction qu'en 2021, il fallait bien plus que juste raconter ce que racontait Zola pour que l'écho soit plus fort, ou qu'en tout cas, vu que j'ai une petite fille et que j'accorde une grande importance à ce que mes enfants vont penser de ce que je vais faire par la suite, j'aimerais bien avoir les réponses quand je vais lui parler. Et par rapport à Catherine, je ne voulais pas me retrouver dans cette situation. Elle m'aurait dit, mais attends, elle me suit, certes, mais c'est quoi la finalité de l'histoire, en fait? Qu'est-ce que ça raconte, finalement?
Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, hein, du coup, Catherine, qui vit une histoire d'amour un peu, avec plein de guillemets, forcé, hein, avec un homme qui va prendre vraiment l'ascendant sur elle, et elle va le suivre envers et contre tout, malgré elle, quoi. Hein, et elle est vraiment prisonnière de ce mineur.
Et c'est vrai que ce soit dans les BD, que ce soit dans le film de Berry, Chaval était décrit comme une espèce d'animal, un croque-mitaine terrifiant, et j'avais du mal à saisir en quoi elle pouvait le suivre. Mais avant ça, j'avais du mal à me dire, attendez, Catherine est décrit comme un oiseau de lumière. Comment expliquer que ce qu'elle subit ne soit pas produit avant? Alors, on peut imaginer, parce qu'on est des hommes, on aime bien se raconter ces histoires-là, que parce qu'il y a le Maheu qui est très respecté, on se dit on ne touche pas à la fille du Maheu, c'est léger, ou parce qu'elle était la promise, en quelque sorte, de Chaval, que Chaval est un peu le mâle alpha du coron, le mâle dominant, on s'est dit, bon, écoute, ça fait deux raisons suffisantes pour ne pas y toucher. Mais c'est vrai que même lorsqu'on a abordé le rôle de la Maheude, sa mère, dans le roman, la Maheude est descendue dans le fond. Et elle a eu un accident durant une grossesse qui fait qu'elle n'a plus pu le faire. Et ça, on s'est tout de suite dit, tout de suite raconté, que ce soit avec les auteurs ou avec Alix Poisson, qui l'incarne parfaitement, que ce que Catherine subit dans la série, elle l'avait subi elle aussi, dans les profondeurs. Et je pense que il y aurait tout un film ou tout un bouquin à écrire sur l'histoire cachée des mines, mais aucun personnage féminin, que ce soit la Maheude, que ce soit la Levac, que ce soit la Mouquette, par exemple, n'a été abordé, dissocié de cet écho et ces cris qu'on ressentait proche d'ici du bassin minier.
En tout cas, c'est très bien transcrit dans la série, cette relation-là. Et moi-même, j'étais choqué quand j'ai regardé la série. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible de montrer le truc comme ça. Enfin, tu vois, j'étais, alors que bon, je connaissais quand même plus ou moins l'histoire de Germinal, j'étais en mode, mais vas-y, barre-toi, tu peux pas rester avec lui. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pris. Je trouve que c'est très, très bien retranscrit à l'écran.
Et je pense que Chaval en est aussi. Rosemary, qui joue Catherine, est formidable. Mais que le travail sur le prédateur, je dirais, à une époque où on n'en payait pas ce terme, de Chaval notamment, qui est extrêmement charismatique, extrêmement puissant, dans une époque où le plus fort survit, et où la notion même de possession est synonyme de vie ou de mort. Pour moi, c'était quelque chose de très intéressant, parce qu'encore une fois, c'est tellement facile, en 2021, de juger l'époque. Et on sait que le fait de contextualiser un récit est un gros débat aujourd'hui. De dire, attention, ce qui était mal auparavant est mal maintenant. Mais j'ai eu tellement de récits de bravoure et de fraternité, voire de sororité, qui me sont revenus des mines, que c'était largement contrebalancé par les horreurs que je découvrais à côté. Mais il fallait quand même y rendre justice.
Et tu peux nous en raconter justement quelques histoires comme ça qui ont pu te marquer quand tu as rencontré ces familles?
Tout ça avait été extrêmement marqué par notamment ce qui s'est passé à Courrières. Et j'avoue que si Germinal n'avait pas été le projet en place, lancé par France Télé, quitte à parler de la mine, et je suis honoré et très heureux de l'avoir fait, Germinal qui m'a littéralement passionné au point de faire découvrir un aïeul mineur, lui aussi j'en parlerai plus tard, mais Courrières, c'est 1906, c'est un coup de grisou qui tue près de 1100 personnes en quelques secondes. Et c'est tout ce que décrit Zola dans Germinal, c'est Germinal x20. Entendre à l'époque, c'est Jaurès et Clémenceau qui se foutent sur la gueule par votre presse, sur les mêmes postures, questions politiques qui se passent, et Clémenceau qui débarque dans une réunion secrète, hein, sans avoir prévenu personne, qui regarde tous les mineurs en disant « Voyez ce que vous êtes en train de faire, là, cette discussion qui a lieu. Je me battrai jusqu'à la mort pour qu'elle ait lieu. Attaquez la mine et je lance l'armée sur vous. » Il faut savoir, donc, à Courrières, il s'est passé quelque chose d'absolument sidérant. C'est que donc, le grisou explose, ravage des kilomètres de galeries. Tout ça est parti d'un incendie dans une veine qui se sont employés à éteindre en faisant un mur de briques qui, malheureusement, n'a fait que créer une espèce de bonbonnière qui a rencontré le grisou. Et là, ça a été une catastrophe. Et dans les heures qui suivent l'explosion, la direction de la mine doit faire face à un dilemme, je dirais, shakespearien. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on coupe l'air qui alimente le feu ? On sauve la mine, mais on réduit à néant les chances de survie d'éventuels survivants ? Ou est-ce qu'on laisse l'air et on fait tout pour les sortir de là ? Bon, la décision elle est prise en quelques minutes. Hein. On coupe l'air. Ce qui devient complètement terrifiant, c'est que des survivants ont continué à remonter d'une mine asphyxiée jusqu'à 12 jours après l'explosion. En ayant survécu dans des conditions invraisemblables, en mangeant ce qu'on peut imaginer, les dépouilles de leurs frères, les chevaux, en buvant une eau, mais terrible. Et Courrières a été un moment central, je dirais, de la lutte pour les droits ouvriers et qui est en partie responsable de nos acquis sociaux aujourd'hui. Donc, je dirais que la véracité des témoignages, des gravures de Courrières nous ont énormément servi pour aborder notamment le final de Germinal et de traduire de la sorte. Le final de Germinal, c'est une mine ravagée par les eaux suite à l'intervention d'un personnage. Et on ne va pas se mentir, lorsque l'eau a commencé à monter dans les galeries recréées par Isabelle, il y a une forme d'excitation presque juvénile de se dire « c'est incroyable, on a été au bout de tout ça et bientôt l'eau va tout ravager ». Quand on a eu de l'eau jusque-là, et qu'on perdait même pied, on a eu un rappel, je dirais, assez radical sur le fait que des centaines d'hommes et de femmes avaient vécu ces situations, puisque le grisou provoquait souvent des sautes du cuvelage qui retenaient la nappe phréatique, la flotte, et qui déversait des dizaines, des centaines de milliers de mètres cubes d'eau sur les galeries. Donc, voilà, je dirais que le choc, ça a été effectivement les récits de descendants de survivants, d'anciens mineurs qu'on a pu aussi retrouver à la première, extrêmement ému. J'en parlerai, mais je ne faisais pas le fier avant parce que j'avais vraiment pas envie de louper vis-à-vis d'eux. Et tous ces récits, le simple fait que quand Étienne descend avec la cage d'ascenseur, on te raconte que les accidents étaient quotidiens, que ceux qui étaient en haut de l'ascenseur, en général, il arrivait très fréquemment qu'ils trouvent un de leurs camarades en haut, en bas à l'arrivée. Ça vous donne une idée absolument glaçante du courage et de l'inconscience qu'il fallait pour exercer ce métier. D'abord, dans la discussion, c'est une chose de boire un coup avec d'anciens mineurs, c'est une chose de les entendre pointer du doigt le chevalement en acier, donc la structure avec la roue qui permettait de descendre les hommes et de remonter le matériel et le charbon. C'est autre chose quand vous passez un pacte moral vis-à-vis d'eux, en disant « je ne vais rien glorifier, je vais faire honneur aux choses », mais même jusqu'à Chaval, Chaval et la mine. Chaval, ce personnage dont on parle depuis tout à l'heure, la puissance qu'il exhale, la complexité, la violence qu'il contient, il fait partie intégrante de l'histoire de la mine. Quand la projo a commencé, donc on est allé présenter il y a une semaine à Wallers-Arenberg les deux premiers épisodes, on était juste devant avec ma production et Julien, mon co-auteur, juste devant les mineurs, dont on sentait le souffle dans nos nuques. Et j'avoue que c'était pour moi le rendez-vous absolument immanquable. Quand l'un d'entre eux s'est, s'est levé pendant la séance et a quitté la salle, j'ai commencé à transpirer. À transpirer sévèrement en me disant, t'es peut-être allé trop loin là dans les libertés prises ou dans le souffle. Quand il est revenu deux minutes après, j'ai compris que c'était somme toute pour régler une affaire plus sommaire. Les lumières sont rallumées. Et quand je me suis retourné et que je les ai vus absolument bouleversés, ça a complètement phagocyté même ma propre émotion, puisqu'ils ont, levé le pouce, ils m'ont regardé extrêmement ému. Et l'un d'entre eux a levé le doigt et a dit, dans les précédentes versions, on alignait les stars pour faire venir le public. Et je suis fier de mon casting, je considère qu'ils sont des stars à leur manière. Là, ce qu'on a vu à l'écran, ce sont des vrais mineurs. Là, ce qu'on a vu à table, c'est les vrais briquets, ce sont les vrais déjeuners, dîners que j'ai pu faire avec ma famille. Le fait que Catherine jette du pain à une souris au moment où elle mange le briquet, l'un d'entre eux était bouleversé parce qu'il m'avait raconté complètement au dépoté hein, que les souris étaient extrêmement appréciées des mineurs puisqu'il y avait un autre gaz que le grisou, qu'on appelle le puteux, qui vous séchait littéralement quand vous alliez dans un coin faire vos besoins accroupis, un gaz qui était beaucoup plus bas. Donc quand les souris étaient là, ça voulait dire que c'était safe, et donc il était fréquent qu'ils travaillent avec des centaines de souris à leurs pieds et qu'ils partagent leur briquet avec. Donc on a truffé, je dirais, la série de petits détails de cette sorte. Certains et truffé aussi la série des moments un peu clés de clin d'œil à des véritables histoires. Par exemple, la petite Galibotte, c'est celle qui pousse la berline, qui voit arriver l'eau pour la première fois quand le cul de l'âge craque dans l'épisode 6. C'est un souvenir qui m'a été raconté de quelqu'un qui avait perdu sa petite sœur. Donc c'était quelque chose de... Voilà, on a essayé en tout cas de rendre hommage et faire honneur à tout ce vécu insensé qu'on peine à imaginer aujourd'hui.
Ouais, c'est clair. En tout cas, quand vous verrez la série, j'espère que vous profiterez d'autant plus de la série en repensant justement à ces anecdotes-là et à toute cette émotion et toute cette attention surtout que tu as eue de pouvoir retranscrire ces petits gestes, ces petites histoires à l'écran, quoi. Pour ce qui est de l'adaptation littéraire, on va dire, est-ce que ça a été compliqué pour les scénaristes? Et puis, est-ce que ça a été, toi aussi, peut-être un enjeu de modifier certains dialogues qui pourraient peut-être être emblématiques de Germinal? Tu vois, si tu avais des discours qui étaient très impactants, très connus, est-ce que vous avez fait le choix de vous dire « Ok, c'est tellement culte qu'on ne peut pas y toucher et il faut que ça soit ces mots-là » ou est-ce qu'on l'adapte, justement
C'est tout l'aspect remarquable du travail des scénaristes. C'est que la volonté avait été prise depuis le départ, depuis le lancement du projet, qui est encore une fois vraiment une idée de production. Hein. J'insiste, de parler un langage plus courant, je dirais, pas tant par volonté de capter le public, mais aussi d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait se parler de façon plus fraternelle, plus directe. Et dépoussiérer aussi, on sait qu'en en général, jusqu'alors, en France, dès que des comédiens mettent des costumes, en général, ils se mettent à parler de façon très ampoulée, un peu de façon muséale, un peu au théâtre. Et c'était tout ce qu'on refusait. Il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que je crois qu'il n'y a qu'une infime quantité du texte et des dialogues de Zola dans la bouche de nos comédiens. On a tous l'impression d'avoir déjà entendu ces dialogues, pourtant c'est complètement nouveau, repensé, réécrit. Et je dirais que si les deux premiers épisodes paient un peu leur solde à l'héritage classique de Zola, même si on se lâche pas mal sur la fin du deuxième, dès le troisième épisode, où notamment des auteurs qui s'appellent Samir Obéchou et Chérif Salis, un ton nouveau est donné, avec l'arrivée de Bresson, notamment cette espèce de dandy casseur de grève à l'appétence prononcée pour la violence. Où là, disons que c'est un régal sans nom et on se permet finalement de parler un langage, un beau langage, mais moins ampoulé, moins daté, je dirais, que chez Zola. Je sais que ça a été compliqué. Je sais que parfois, la tentation a été grande de revenir à la base, mais qu'on a toujours trouvé non pas une façon de le contourner, mais de s'inspirer pour le retranscrire et optimiser la résonance actuelle.
On voit aussi dans cette série Germinal qu'il y a une inclusion avec de personnages racisés, qui est un point qui n'est pas vraiment abordé dans le roman. Est-ce que c'est aussi une volonté de moderniser le propos, de faire vivre la série dans son époque, ou justement, est-ce qu'il y a une réelle présence à l'époque de ces personnages racisés?
J'avoue que c'est plus, je raisonne plus du tout, je comprends la question. Hein.
Je la pose aussi parce que, effectivement, quand on a communiqué il y a quelques jours sur cette série Germinal, on a eu, comme toujours, certaines personnes un peu bas du front qui disaient il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait que des blancs. Voilà. C'est important, du coup, de poser cette question-là aussi pour non seulement affirmer ou non, mais aussi comprendre les enjeux du cinéma et de la mise en scène, de ce qu'on attend aussi de production aujourd'hui, tu vois, de ce qu'est la société, de tout ça.
Tout à fait. Germinal est un roman. Encore une fois, je le dis. Germinal est un roman français. L'adaptation est supposée s'adresser à la France d'aujourd'hui et à tous les Français. Et à partir du moment où on est français, Germinal et l'histoire minière fait aussi partie de notre histoire. Donc à partir de là, pour moi, je me sentais excessivement libre. Et l'idée était de prendre et surtout appuyer complètement, parce qu'on peut aussi complètement angoisser, en tout cas c'est mon cas, parfois de se dire, mais punaise, il n'y a que des personnes blanches à l'écran. Alors, on peut l'impression de faire un jackpot dans le milieu historique, sauf que l'histoire, encore une fois, est bien plus complexe que ça. Je vais y revenir, mais d'abord, d'un point de vue réalisateur, je prends les meilleurs comédiens. Donc c'est très simple, le process de casting il est simple, à partir du moment où on ouvre à la diversité, à la mixité, amenez-nous les meilleurs comédiens, des castings sont faits, et j'adore être en galère et me dire, mais attends, c'est cette énergie-là que je veux. Quand Steve Tietcheux vient jouer Rattner, c'est un lion en cage à côté, c'est très impressionnant physiquement, et la perspective de le voir débattre avec Pouchard, qui est joué par Eric Kerson-Macarel, une espèce de joute verbale, moi je paye mon ticket pour y aller. Sani Bouajila, à un moment donné, je me disais, mais quel comédien peut jouer ce patron plus proche du peuple ouvrier, donc qu'il soit crédible quand il exprime le souci de sa main-d'œuvre ouvrière, et qu'il ait la classe nécessaire pour ne pas dépareiller quand il s'adressera, je dirais, à la bourgeoisie locale. Et trouvez-moi mieux que Bouajila. Et rajoutez à cela quelque chose qui compte énormément pour moi, c'est que, très bizarrement, dans l'équipe du Nord de Germinal, il y avait plein de descendants d'anciens mineurs. Eh bien, je vous le donne en mille, le métissage de mon équipe était très prononcé. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'aller étudier un peu plus, de chercher, ça ne prend pas très longtemps, mais d'aller chercher qui descendait dans le fond, qui était la nouvelle main-d'œuvre dans le fond qui descendait dans la mine, et vous verrez que l'histoire de la mine blanche, alors certes, on n'est plus dans les années 1960, mais l'histoire de la mine blanche a vécu, et qu'il y a tout un pan de l'histoire de la mine, la dernière a fermé en 1989 ou 1992, je crois, qui reste excessivement méconnu, il s'agit aussi d'honneur à ce pan entier de l'histoire. Alors, je me méfie toujours du symbolisme de l'ultra-exagération. Et quand à un moment donné, j'ai l'impression qu'on veut appuyer. Enfin, en gros, si c'est pertinent, je prends. Et après, c'est mon prisme de valeur à son producteur qui prévaut. Mais c'est vrai, quand j'ai raconté ces histoires à Steve Tietcheux qui joue Rattner, à Bouajila et à l'ensemble des figurants, regardez dans la foule d'une heure, et vous verrez qu'on est sur un paysage très varié. Je peux vous assurer que quand mon équipe technique métissée a vu arriver les comédiens sur le plateau, ils étaient très, très, très émus de voir que leur grand-père ou arrière-grand-père, d'une certaine manière, serait représenté.
Est-ce qu'il y a eu la tentation, de par le fait que Germinal, c'est un des grands classiques de la littérature française, de surprendre le public en rajoutant des arcs ou en ajoutant de nouvelles intrigues, finalement?
C'est le cas. Et d'ailleurs, bon, ça c'est assez génialement fait. Mais tant et si bien qu'à un moment donné, comme personne ne nous faisait la remarque, en lisant les frites. Est-ce qu'ils ont compris que c'était inventé, cette partie. Donc, bravo aux auteurs qui l'ont rendu complètement fluide et qui s'est noyé dans la masse. On s'est dit, si on a les ayatollahs de Monsieur Zola qui nous tombent dessus, bon, il s'avère que finalement, ces libertés prises avec le récit d'origine sont pour l'instant très appréciées.
Pour revenir vite fait, ou pas d'ailleurs, à ton équipe, tu nous disais qu'il y a pas mal de membres de ton équipe, mais peut-être aussi des figurants qui, justement, ont eu de la famille qui était mineure. Tu as même lâché une petite bombe tout à l'heure, comme ça, en 2 secondes, en disant que toi-même, tu avais pu retrouver des ancêtres.
Lorsque je pars à Toulouse rejoindre ma mère pour présenter la série Scam, ça paraît surréaliste, mais donc je lui dis, écoute, on me propose Germinal, je pense que je vais y aller, je me pose encore 1000 questions, mais je pense que je vais y aller, et ma mère conduit silencieusement et me dit, David, sache juste que ton arrière-grand-père serait très fier si tu le faisais. Je reste quoi? Et je lui dis, mais quoi tu parles? Elle me dit, mais ton arrière-grand-père était mineur à Liévin. Voilà, donc balancer ça à un Toulousain d'origine, c'est un peu de sens. Et me voici récupérant quelques semaines plus tard de ma tante la lampe de mon arrière-grand-père, ses médailles du mérite ouvrier, et me voici en train de vivre une espèce de reconnaissance inattendue à une partie de mon histoire. On pourrait penser que c'est... Donc je plaisantais avec la prod en disant j'aurais du mal à le servir comme une espèce de motivation préexistant à mon désir de le faire. Mais c'est vrai que ça a été un choc un petit peu fou avec cette histoire qui m'a pas accompagné les longues soirées seules de préparation de Germinal le soir où j'avais le Covid, en train où je suppliais mon aïeul de ne pas faire n'importe quoi et de m'aider à me guider. En général, je discutais beaucoup avec Émile Zola et mon aïeul le soir dans mes séances de spiritisme. Mais surtout, je me suis rendu compte que mon histoire, finalement, elle était parfaitement banale, dans le sens où, dans mon équipe technique, Charlotte Aguillet, qui s'occupait notamment de la coiffure, son aïeul était quasiment l'équivalent de Monsieur Hennebeau à l'époque minière, que beaucoup d'entre nous, en remontant, ont découvert des listes d'ancêtres ou de grands aïeux qui tous ont connu les ténèbres de la mine. Quand j'arrive dans le Nord, déjà, il y a le poids de l'héritage de Claude Béret. Le tournage de Germinal a marqué la région.
Il faut le dire, t'as des figurants qui sont les mêmes, certains membres de l'équipe qui sont les mêmes.
Des comédiens qui sont les mêmes. Hein. Le grand patron de Monsieur Hennebeau, donc Guillaume Tonquédec, le grand patron parisien, et jouait le gendarme qui déclenchait le feu sur les mineurs dans Claude Berry. Donc on arrive sur, je dirais, un terrain où l'ombre de Claude Berry, les histoires sur Gérard Depardieu, Mounou sont légion. Et souvent hilarante, souvent consternante, mais en tout cas, on arrive effectivement alors que voilà, c'est la terre est très empreinte, d'autant plus qu'on vient tourner sur le même endroit, dans un des endroits où ils sont venus. Et c'est vrai que la réputation des gens du Nord, c'est vraiment un cliché de dire ça, mais elle n'est pas usurpée, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous leur montrez que vous allez tout donner pour faire honneur à ce pourquoi vous êtes venu, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Et autant il m'arrivait, encore une fois, le Toulousain, de regarder les vidéos sur le Stade Bollard chantant les corons avec une certaine circonspection, à la fin du tournage, quand il se mettait à entonner la chanson, j'avais moi-même du mal à retenir mes larmes. Mais c'est vrai que les figurants que j'ai rapidement appelés, qui se sont autoproclamés les grisons, je leur ai tout de suite dit que de par leur appartenance à cette histoire et parce qu'on ne venait pas juste pour faire un tournage, c'est merveilleux de faire un tournage, mais faire Germinal, il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, vous plaisantez, enfin, j'aurais convoqué l'adolescent que j'étais en disant, mais lis bien, franchement, je t'assure, laisse les filles un peu de côté et lis bien chaque page parce que ça va te servir pour pour plus tard. Enfin, c'est une vue de l'esprit absolument invraisemblable. Et quand ils ont vu à quel point c'était important pour moi, tous sont venus me parler. Je dirais à tour de rôle, au fur et à mesure, et pour me confier leurs souvenirs, pour me confier l'importance absolue de ce projet pour eux. Et je leur ai à chaque fois dit à quel point j'allais leur demander beaucoup. Parce que Germinal, c'est un soulèvement ouvrier, c'est un soulèvement où l'individu devient collectif, devient une vague. Et je ne voulais pas de gestion de la figuration habituelle avec trois volets devant la caméra, trois personnes qui font semblant de discuter en arrière-plan. Mais je voulais des gens en leur promettant de sacrées surprises au fur et à mesure des séquences. Et notamment, dans le texte, la grève était à peine... Dans le texte, elle était juste chuchotée à l'époque, dans la fin du deuxième épisode. C'était des bougies qui étaient posées. Et on sentait que ça allait venir, que ça allait gronder. Sauf que le matin, ils arrivent, ils voient de la pluie, des rampes à pluie installées. Et ils découvrent, au fur et à mesure de la séquence, que la voix qui va faire retentir grève suite à l'annonce de la Maheude, c'est le peuple. Et imaginez-les, ça fait 4 heures qu'ils sont sous une pluie glaciale. Soudain, mais laissés exalter et ce cri. Grève auquel fait face M. Hennebeau, je peux vous assurer que le soir, quand on a 10 coupés qui sont repartis dans leur tente pour se changer, ça continue de hurler grève avec une puissance qui me collait des frissons. Donc ouais, ça a été une rencontre incroyable, avec une région et avec les gens.
Et d'ailleurs, quand on t'a proposé d'adapter Germinal, parce que c'est très politique, toi, tu y as vu effectivement l'occasion de te dire « Waouh, chouette, c'est un pilier de la littérature que je vais pouvoir adapter » ou il y avait ce côté aussi politique qui était quand même très important pour toi. Tu nous parlais tout à l'heure des gilets jaunes aussi, puis du fait qu'il peut y avoir un certain écho quand même dans le contexte politique actuel. Est-ce que c'était important pour toi aussi, tout ça ?
Il y a deux choses. Alors d'abord, à titre personnel, je vais toujours à ce qui me terrorise le plus. C'est l'histoire de la vie sentimentale. je crois qu'on ne va pas, en général, on ne va pas vers la personne qui vous rassure au premier coup d'œil, hein, mais on va vers quelqu'un qui vous provoque des tourments. Ma femme peut en témoigner. Sur les projets, quand je me pose des questions de légitimité, quand je suis tétanisé par la portée éventuelle d'un texte, de par son importance pour certaines personnes, quand je fais face à quelque chose de vertigineux, j'ai l'assurance en tout cas que je vais peu dormir, tellement je vais avoir peur, mais que ça va m'obliger très très créatif. Et que je ne peux compenser cette peur et ce vertige qu'en donnant 1000% de ce que j'ai. Et en allant chercher au plus près des émotions des personnages qui eux-mêmes ont le vertige. Dans le cas de Germinal, j'attendais juste de savoir si... le texte me permettrait de faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire de suivre ce schéma émotionnel, de faire sentir les battements de cœur, les respirations de ces personnages, l'œuvre, l'aspect politique, on le connaît, on le ressent. J'étais plus intéressé par l'humain tout en ayant une conscience de toute la dimension politique. Mais je pense que c'est là tout le brio du texte et de la série, c'est d'arriver à être assez universel, quel que soit notre bord ou nos acquaintances politiques.
D'ailleurs, enfin, pour ce qui concerne l'humain, voilà, mon scénariste, Lil T, qui a bossé aussi sur Family Business. Il y a ce côté-là dans Family Business que j'aimais beaucoup, effectivement, des personnages qui sont super bien écrits, super attachants et tout. Et là, c'est pas, enfin, dans Germinal, je sais pas si c'est Lil T qui s'est chargé de ça aussi, de cet aspect-là, mais qui, effectivement, m'ont beaucoup touché, quoi. Ce qui, spoiler, moi, m'a fait lâcher une larme, 5e, 6e épisode. Surtout vous spoiler pour ceux qui connaissent pas le truc. C'est très touchant, quoi. C'est très touchant.
Tu parles de quel moment ça, sans spoil.
Ah bah la fin du cinquième, c'est... Voilà.
Alors la fin du cinquième, c'est drôle parce que... Alors, vous verrez juste sans rien spoiler, mais disons qu'on se retrouve dans un tableau figé façon de la croix. Et en fait, c'est une inspiration de la dernière minute qui m'a prise. Puisque dans le texte, c'est le fameux moment des gendarmes face à la foule et de la façon dont le mouvement va être réprimé. Et j'étais en panique, comme tous les matins, mais là particulièrement, parce que c'était un moment charnière de Germinal, d'autant plus qu'il faisait extrêmement écho à à tout ce qu'on racontait en France ou outre-Atlantique, la répression des mouvements, les balles perdues, j'avais la certitude que dans le texte qui décrivait finalement précisément ce qui se passait, qu'on devait être très très humble ce jour-là, sur une journée avec 300 figurants, une seule journée pour rentrer ce bousin, les 50 comédiens à l'écran, des chevaux, des coups de feu. Et soudain, tandis que ces coups de feu retentissent, je lance la musique et presque spontanément, tandis que les gens abordent leur position, je hurle à tout le monde de se figer. Parce que c'était un tableau de Delacroix, un bonnet du forme qui venait de se former sous nos yeux. Et généralement, dans ce genre de cas, il y a toujours un gars au fond du carreau qui fait « Comment ? Il dit quoi ? J'ai pas compris !» Et là, on est sur un carreau de mine. Imaginez l'ampleur. La musique retentit et on se promène au milieu de tous ces visages figés dans le temps. On découvrira par la suite que c'est le point de vue uniquement de la Maheude qui est la seule à se mouvoir dans ce tableau figé. Je dis coupé, ma productrice Carole vient me voir et larme aux yeux en disant « Il s'est passé quoi là ?» Et je lui dis « Écoute, je ne sais pas trop, mais à partir de maintenant, je suis obligé de construire la séquence sur ce moment. » Et là, le seul risque en général quand on vit ce genre d'inspiration, ça m'arrive très souvent, mais dans ces circonstances-là, pas tous les jours, c'est qu'on se demande si une fois arrivant au montage, on ne va pas se dire qu'on était juste complètement bourré.
C'était trop nul en fait, ça ne marche pas du tout.
Écoute, c'est complètement claqué. Et finalement, la première diffusion de la séquence en montage et les larmes ou les respirations coupées des personnes dans la salle nous ont dit qu'on était sur un truc intéressant.
Alors, en tout cas, c'était surprenant. Moi, je ne m'attendais pas et c'était très bien.
On s'est permis d'improviser sur une entreprise pareille et pas qu'une fois.
Sachez que pour le casting, d'ailleurs, on a un camarade, pour ceux qui suivent YouTube et l'histoire, vous aimez ça, Confession d'Histoire, une des meilleures émissions d'histoire quand même de YouTube, évidemment. Eh bien, le camarade qui joue Richard Cœur de Lion, il est acteur dans la série Germinal.
Vincent Denard qui joue Bouclou et qui apporte toute sa classe au personnage.
Ouais, c'est clair, il est vraiment impressionnant. Toi, est-ce que de ton côté, il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aurais aimé justement pouvoir pousser auprès du public, peut-être, nous raconter, que ce soit sur les coulisses ou sur justement les enjeux autour de la reconstitution historique autour de cette série ?
Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce qui est absolument incroyable sur Germinal aussi, c'est la confiance qu'a une production envers de jeunes auteurs et un jeune réalisateur et une équipe qui suit derrière, qui nous lance sur le budget le plus important de l'année sur Germinal. Enfin, il y a une espèce de coup de folie là-dedans. C'est vrai que sentir la réception du public, notamment à Sérimania, a été un moment assez fort. On espère que ça va ouvrir une brèche et qu'on va sortir un petit peu des circuits un peu sûrs pour que revisiter ou découvrir de nouvelles histoires. C'est vrai que je parlais de courrier tout à l'heure, mais c'est se dire aussi qu'on a le savoir-faire entre guillemets pour aborder nos grands récits autrement que de façon muséale et parfois poussiéreuse, et qu'on a des récits colossaux. Et je pense que l'histoire française mérite d'être adaptée à sa juste valeur. Je sais qu'on a discuté toi et moi de grands récits digne de Game of Thrones dans notre propre histoire. Et j'avoue que ça ferait partie des choses qui me plairait de continuer à creuser dans un futur proche.
Ouais, il y a tellement de choses dans l'histoire de France qui sont passionnantes et qui peuvent être mises à l'écran. En tout cas, oui, vous avez, donc pour le rappeler, gagné un prix à Sérimania. Tu peux nous recontextualiser un petit peu le truc pour les gens qui ne connaissent pas.
Et on a gagné le prix du public. On avait déjà la chance d'avoir des critiques plutôt super pour la quasi-unanimité. Bon, on s'est fait défoncer par Télérama, mais ça fait longtemps que je travaillais pas pour eux. Mais ceci étant, on était très heureux déjà des critiques. Quand on nous a rappelé pour dire ramenez vite vos fesses à la cérémonie de clôture de Sérimania parce qu'il y a un prix, c'est vrai que j'espérais vraiment celui du public. Et quand on nous a dit que les notes du public étaient excellentes, j'avoue que c'était, disons, c'était assez, assez merveilleux. Maintenant, reste à voir si le grand public va venir, ce qui va décider un petit peu du sort de ce genre d'adaptation à budget plus important. Je relativise le budget plus important. Bien sûr, le contexte français nous amène, nous conduit à le trouver important. Germinal, un épisode de Germinal, Germinal, la série, c'est le budget d'un épisode de Game of Thrones. Voilà. Donc, ça donne une idée un petit peu du train de retard budgétaire qu'on peut avoir, même si les Américains travaillent avec beaucoup plus de monde que nous.
J'ai l'impression que les séries françaises ont de plus en plus la cote, mais d'ailleurs, comme le cinéma, et moi-même, je constate qu'à titre individuel, je consomme beaucoup plus de cinéma et de séries françaises qu'avant, quoi. Je ne sais pas quel est ton ressenti là-dessus, mais...
Oui, le ressenti, je pense... alors déjà, juste... Salto, je disais qu'il faisait un très très bon travail sur la série, et j'avoue que c'est une plateforme avec qui on peut aussi discuter largement des programmes, parce que Salto a été partenaire, coproducteur aussi de la série, donc c'était important. Et c'est assez frais, j'avoue. Et justement, ça que je note, sans doute, c'est que la discussion et les gens autour de la table, finalement, sont tous très concentrés sur le même objectif, c'est-à-dire véritablement aboutir à une série de qualité et s'affranchir un petit peu des pontifs, des séries précédentes et d'une certaine forme d'immobilisme et de circuit rituel poussiéreux. Maintenant, il reste encore une fois. Et c'est vrai que ce qui va accélérer ou pas le mouvement, ça va être véritablement le succès d'une série comme Germinal, le succès de Paris Police 1900, le succès de série de cet acabit, exactement. Et j'espère que ça va bouger parce qu'on a encore quand même de sacrés trains en retard. Je n'ose imaginer combien de temps il faudrait pour qu'on fasse quelque chose comme Tchernobyl, par exemple, qui ressemble à un suicide à tous les niveaux, que ce soit en termes d'approche de l'image, de comédiens connus à l'écran, de rythme de montage, pour qu'à l'arrivée, ça mette tout le monde d'accord. Il faut savoir quand même qu'HBO était terrorisé par la série et qu'ils ont compris le potentiel du truc quand ils l'ont diffusé en screen test. Même si je me réjouis complètement, si tu veux, de voir l'accueil qui est fait à Germinal et je l'espère un succès, et surtout la création originale, favoriser la création originale, soutenir les auteurs aussi pour aboutir à des fresh new products français, labellisés français, c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Il n'y a que ça qui pourra faire bouger les choses.
Ouais, bah, je le souhaite vraiment parce que c'est vrai que c'est... C'est cool, on a un pool d'acteurs en France qui est incroyable, on a plein de gens qui, comme toi, arrivent vraiment à raconter des belles histoires et de plus en plus à nous plonger dedans, donc ouais, j'espère. J'espère aussi qu'on va pouvoir faire péter les budgets et produire de la grosse série.
Exactement, et les comédiens en rêvent. Enfin, il faut quand même le savoir que quand je vais voir, tu sais, Alix Poisson et que je lui dis « Bon, Alix, on va te filmer sensiblement différemment d'habitude. Hein. » C'est-à-dire qu'on va avoir des gros travelling sur toi, on va vraiment... assumer le souffle, mais elle est la première à taper du poing sur la table en disant « Allons-y ». Guillaume de Tonquédec, pour la fin du sixième, où il vit quand même quelque chose d'assez spectaculaire avec un chevalement, j'en dis pas plus, mais le matin, il fallait le voir en disant, mais il trépignait dans le HMC en train de dire, HMC, donc là où on s'est maquillé, c'est mon premier film catastrophe, mais explique-moi tout. Et il dévorait le storyboard, il était complètement... Enfin, c'est des mômes, quoi, c'est des mômes, et on a eu énormément de chance de compter sur leur talent incroyable, mais surtout leur enthousiasme à aborder les choses de façon différente. Il est là, le moteur. Nouveaux auteurs, fiction originale, les comédiens seront au taquet et les réels inspirés.
Bon, alors toi, si on te met flouze illimité là, tu pars sur quoi tout de suite?
C'est en discussion. C'est en discussion, mais comme c'est largement surveillé... Mais je t'avoue qu'on part un peu sur ce délire. Alors, soit on part sur le truc le plus fauché du monde, tu sais, pour se reconnecter à la démerde qui m'a habité depuis le départ. Mais j'avoue qu'avec ma productrice, mes producteurs, on réfléchit à de sacrément belles aventures sur des terrains pas encore explorés.
Vous réfléchissez aux flous illimités. Très bien, on a compris.
On en rêve.
On en rêve. C'est clair, on en rêve tous. Merci beaucoup, en tout cas, David, pour nous avoir accordé du temps ce soir. J'espère que dans le chat, ça vous aura plu. On vous rappelle que Germinal, c'est dispo sur salto.fr. Alors, c'est sur abonnement, hein, mais vous avez un mois gratuit en ce moment pour tester. Donc, profitez-en. C'est peut-être le moment d'aller voir Germinal, justement, et de découvrir cette série. Sinon, ça sera diffusé sur France 2. On a 3 soirs qui sont programmés. Je vous laisse chercher les dates sur Internet. Encore merci, David. Merci à tous ceux qui ont écouté aussi ce podcast, cette rediffusion en podcast ou sur YouTube. Passez tous une très bonne soirée et à très bientôt. Salut, ciao.
Bonsoir.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.